Vous écoutez
RMC.
Merci d'avoir choisi RMC la radio, RMC Story la télé. Il est 7h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Deux jeunes mineurs radicalisés, mis en examen et écroués pour un projet d'attentat à caractère antisémite. Opération sauvetage, l'État au chevet de Brandt, prêt à investir 5 millions d'euros dans le projet de reprise des salariés et du fabricant, fleuron de l'industrie française en danger. Et le calvaire qui se poursuit à Nice, où la violence a pris le dessus. Deux joueurs pris à partie et agressés dimanche en marge de la 6e défaite de rang des Aiglons ont décidé de porter plainte.
Et c'est encore un nouveau projet d'attentat déjoué.
Une attaque à caractère antisémite empêchée par les autorités qui ont mis la main sur des messages publiés par deux jeunes mineurs âgés de 16 ans, Guillaume Bier. Ils ont été mis en examen et incarcérés dimanche.
Oui, et c'est une nouvelle fois l'extrême vigilance des policiers du renseignement sur les messages récryptés qui a permis de déjouer ce projet. Car c'est dans une boucle WhatsApp où s'échangent des contenus terroristes que ces deux adolescents discutaient d'un éventuel passage à l'acte contre des personnes de confession juive. L'un des suspects âgé de 16 ans a été arrêté à Strasbourg. Un garçon d'origine tchétchène arrivé en France il y a 4 ans avec sa mère qui fuyait son mari violent d'après nos confrères de BFM TV. Inconnu de la justice, cet adolescent s'est récemment radicalisé. Il ne va plus en cours et consommerait beaucoup de vidéos violentes sur les réseaux. Un profil que rencontrent de plus en plus souvent les enquêteurs de la DGSI. Depuis le début de l'année, 20 mineurs ont déjà été mis en examen dans des dossiers terroristes.
La piste accidentelle écartée après l'incendie d'un bâtiment qui a tué 5 personnes le week-end dernier en Meurthe-et-Moselle. Les autorités évoquent l'intervention d'un tiers et donc la piste volontaire.
La ville de Saint-Étienne n'a officiellement plus de maire ce matin.
Reconnu entièrement coupable dans l'affaire du chantage à la sextape, Gaël Perdriau a été condamné à 4 ans de prison ferme et une peine d'inéligibilité immédiate hier. Après des années de polémique, les Stéphanois ont désormais hâte de pouvoir passer à autre chose. Reportage de notre correspondant sur place, Vincent Chevalier.
Parfait. Voilà. Donc, bon, ça c'est la bonne nouvelle du jour.
Devant les marches de la mairie, Nathalie apprend tout juste la condamnation.
Monsieur Perdriau n'a pas respecté cette population et n'a pas respecté Saint-Étienne avec sa vie et son vécu. Donc au revoir Monsieur Perdriau.
Des habitants surtout pressés de tourner la page après des années de scandale, selon Françoise.
C'est long, la justice est longue. Moi j'ai trouvé que ça avait trop duré. Il faut passer à autre chose complètement. Hein. Il faut voir autre chose. C'est la ville en a besoin.
Des Stéphanois fatigués aussi de voir leur ville ridiculisée. Maurice en a fait l'expérience.
Moi, j'étais souvent en activité sur Paris. On faisait rire gentiment, mais on faisait rire tout le monde. Des blagues du style, t'es en réunion, est-ce que tu m'enregistres ?
Pour Gilles Artigue, l'ancien premier adjoint victime de ce chantage à la vidéo intime, c'est un soulagement.
C'est en tout cas la reconnaissance de mon statut de victime. Je vois que la justice a porté des peines qui, je pense, sont à la hauteur de ce que j'ai pu endurer et de ce que ma famille a enduré.
Gaël Perdriau a fait appel de sa condamnation et continue de clamer son innocence. De son côté, le conseil municipal doit désormais se réunir pour choisir un nouveau maire par intérim jusqu'aux élections en mars prochain.
150 rassemblements partout en France, journée de grève pas ou peu suivie dans les transports, quelques perturbations à prévoir tout de même sur les régions régionales. En Occitanie ou en Île-de-France, sur la ligne C du RER, mobilisation à l'appel des syndicats contre le budget du gouvernement. S'il n'est pas encore voté, les tractations se poursuivent en coulisses à la recherche d'un compromis après le PS hier. Les écologistes, ce mardi, ce sera les représentants du RN qui seront reçus demain par Sébastien Lecornu.
Ils seront reçus demain, mais dès ce matin, Marine Le Pen est mon invitée. Notez-le, ce sera à 8h15 tout à l'heure, le face-à-face sur RMC et BFM TV.
Avant ça, un autre rendez-vous. Sébastien Martin, votre invité, Apolline, à 7h40 sur RMC. Le ministre délégué chargé de l'industrie qui se dit prêt à investir 5 millions d'euros dans un projet de coopérative pour sauver Brandt. La justice doit examiner les offres de reprise du fabricant d'électroménager demain et le groupe placé en redressement judiciaire. Parmi elles, donc, ce projet de scope proposé par les salariés. 350 des 700 emplois pourraient être sauvés, dit le ministre. Un soulagement pour les employés du site de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Près d'Orléans, reportage, Alfred Orange.
À la sortie de l'usine, devant les portiques, les salariés l'assurent à la volée.
Le moral, on l'a toujours.
Pas bavard, mais gonflé d'espoir par cette visite ministérielle qui promet soutien et moyens au projet de SCOP, dans lequel les salariés sont les associés majoritaires et qui a pour ambition de sauver près de la moitié des 700 postes menacés. Sylvain Raymond est délégué du personnel chez Brandt.
Notre objectif, c'est de pouvoir continuer l'avenir industriel du site Orléans, Vendôme et Cergy, de pouvoir continuer à fabriquer les produits Made in France.
enfance. Je pense que tout le monde chez soi, même dans sa petite enfance, a eu un produit Brandt chez papy, mamie ou même chez soi. Le fait d'avoir eu cette idée de monter une SCOP, ça a redonné un peu d'espoir et maintenant tout le monde attend des nouvelles.
Parce que rien n'est encore fait, ce projet de reprise doit être examiné demain par le tribunal des activités économiques de Nanterre qui scellera l'avenir de ce fleuron français qui a fêté l'année dernière ses 100 ans d'existence.
La réponse de l'Élysée à ses détracteurs et plus particulièrement CNews, accusé de répandre de fausses informations à propos de la proposition d'Emmanuel Macron de créer un label à destination des réseaux sociaux et des sites d'information afin de lutter contre la désinformation. Une vidéo de l'Élysée, Julien Coudreau, largement commentée et même dénoncée par de nombreux politiques de droite et d'extrême droite.
Oui, un scandale d'État pour Éric Ciotti. L'œuvre d'un ministère de l'info, selon David Lisnard, ou encore une idée dangereuse combattue par tous les démocrates cohérents, selon Jordan Bardella. En cause, donc, cette proposition d'Emmanuel Macron de créer une labellisation des médias. C'était le 19 novembre dernier.
On va tout faire pour que soit mis en place un label. C'est pas à l'État de dire, parce qu'il faut faire attention. C'est pas le gouvernement ou l'État qui peut dire ceci est une information, ceci n'en est pas. On n'a pas non plus envie de tomber là-dedans. Parce que c'est pas ça une démocratie. Par contre, je pense que c'est important qu'il y ait une labellisation faite par des professionnels qui puissent dire ceci correspond à la déontologie de gens qui manipulent de l'information.
Extrait du chef de l'État diffusé par l'Élysée hier soir sur son compte X dans une vidéo qui reproche aux détracteurs de cette idée, médias comme politiques, de répandre des fake news. Une vidéo qui rappelle que ce ne sont pas des politiques mais un organe indépendant qui pourrait attribuer ce label.
Emmanuel Macron qui s'est entretenu hier avec Donald Trump au sujet de l'Ukraine en marge de la visite de Volodymyr Zelensky à Paris. Si un plan de paix n'est à ce jour pas finalisé, le chef de l'État a tout de même salué l'effort de médiation des États-Unis à l'heure où l'émissaire américain Steve Witkoff doit rencontrer Vladimir Poutine ce mardi à Moscou.
7h06 sur RMC. Et puis la crise qui se poursuit à Nice, bien au-delà du foot. Hein.
La situation complètement délétère. Après une 6e défaite de rang à Lorient, les joueurs du club azuréen ont été pris à partie dimanche soir. Attendu devant le centre d'entraînement par plusieurs centaines de supporters, certains particulièrement véhéments auraient agressé deux joueurs et un membre du staff, Maxime Thiette. Deux plaintes contre X ont été déposées.
Oui, Jérémy Bogas s'est vu remettre une ITT, incapacité temporaire totale d'au moins 5 jours. Son coéquipier Terem Moffi est lui en arrêt de travail jusqu'à la fin de la semaine. Cela suite au rassemblement de 400 supporters dimanche soir pour accueillir leurs joueurs vers 23h. À la sortie du bus qui les ramenait de l'aéroport, les aiglons ont fendu la foule pour rejoindre le centre d'entraînement où étaient garés leurs véhicules. Bogas et Moffi ont été les principales cibles des coups, crachats et insultes. Cela s'est passé au milieu des fumigènes et d'hommes vêtus en noir avec des cagoules. Dans leur rapport, les policiers évoquent une atmosphère très hostile, mais ne rapportent pas de violence, de dégâts, de blessés ou d'interpellations. Le club, dans un communiqué, apporte son soutien à ses joueurs. L'UNFP qualifie les événements d'intolérables et appelle à la plus grande fermeté.
Nice qui jouera face à Saint-Etienne le week-end du 20 décembre, Coupe de France. Le tirage des 32e de finale avait lieu hier soir. Ce sera un club de National 2 en tente Fény-Aulnois pour le leader de la Ligue 1 Lens. Monaco se rendra au Auxerre, seul choc entre deux clubs de l'élite. Paris sera opposé au club de Vendée-Fontenoy en 5e division. Marseille ira à Bourg-en-Bresse, club de National 1. Notez à ce propos que Mehdi Benassia, directeur du football à l'OM, sera l'invité de l'After Foot ce soir de 22h à minuit sur RMC.
C'était le journal de Thibaut Texer. Et puis du côté du face-à-face tout à l'heure, mon invité c'est Marine Le Pen, et vous êtes nombreux à nous envoyer déjà un certain nombre de questions, de remarques, de manière de l'interpeller. C'est votre cas, Nicolas, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Bonjour Nicolas, vous êtes routier dans la Loire, peut-être d'ailleurs au volant déjà à cette heure-ci, je ne sais pas, vous
oui,
en êtes où?
Oui, c'est pour ça que je viens juste de m'arrêter, j'étais sur la route du retour.
De quel côté vous êtes?
Là, je suis à Clermont-Ferrand.
À Clermont. Nicolas, vous avez une question pour Marine Le Pen?
Oui, comme je disais, ma question est assez simple. Je veux juste savoir comment elle va faire pour appliquer son programme tout en restant dans l'Union européenne. En fait, je m'explique, on s'en souvient, en 2017, Monsieur Asselineau débitait des articles et tout. Enfin, la plupart des gens se moquaient de lui, mais le fait est là que ce qu'il avait dit est arrivé.
Sur le fait quoi? Sur le fait que l'Union européenne donnait un certain nombre de normes et décidait d'une grande part de la politique qui se passe ici, quoi.
Bah, elle décide quasiment d'à peu près tout, en fin de compte. Quand on n'est pas d'accord, on a l'exemple de la Hongrie, on se mange des amendes.
Et effectivement, ce qui est sûr, c'est que Marine Le Pen a évolué là-dessus, parce qu'il fut un temps où le RN, à l'époque Front National, était favorable à la sortie de l'Union Européenne. Exact. Ce n'est plus le cas. Pour autant, il y a un certain nombre de points. Hein. Par exemple, il parle souvent des ZFE, de la question de la voiture thermique. Là, c'est vrai que la date de 2035 qui a été imposée, c'est l'Union Européenne qui le fait. Merci en tout cas. Je lui pose la question, Nicolas. Et comme Nicolas, vous n'hésitez pas, vous nous appelez au 3216. Vous voulez interpeller Marine Le Pen, réagir, témoigner. J'attends vos témoignages. Dans un instant, mon invitée, elle a été condamnée pour avoir tenté de récupérer sa propre maison qui avait été squattée. C'est ce qui est donc arrivé à Karine Lelouch. Bonjour. Merci Bonjour. D'être en direct avec nous ce matin. Vous allez nous raconter ce qui vous arrive. La justice vous a condamné à 1 an de prison avec sursis pour complicité de violence. Vous avez embauché des hommes de main pour sortir les squatteurs de votre maison. Alors aujourd'hui, vous regrettez d'avoir embauché ces hommes de main, mais vous demandez quand même que la loi change et qu'elle protège davantage les propriétaires et un peu moins les squatteurs. Vous nous le dites dans un instant, il est 7h10.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h14 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Un an de prison avec sursis pour complicité de violence. C'est la peine à laquelle vous venez d'être condamné pour avoir tenté de récupérer votre maison squattée. Karine Lelouch, bonjour.
Oui, bonjour Apolline, bonjour tout le monde.
Merci d'être en direct avec nous ce matin sur RMC. En fait, vous avez embauché des hommes de main pour tenter d'expulser un squatteur de la maison dont vous aviez hérité de votre père. Ça se passe en Gironde, à Andernos-les-Bains. Vous reconnaissez que c'est une erreur, mais pourquoi vous en êtes arrivé là ?
Alors, bien sûr que c'est une erreur, hein, je le paye, hein, de toute façon, j'ai pris, comme vous l'avez signalé, 1 an de prison avec sursis. En fait, j'en suis arrivée là parce que j'ai découvert que la maison était squattée. Je suis passée par la voie légale, donc j'ai porté plainte, j'ai fait une demande au préfet pour parce qu'apparemment il y a cette loi où on peut expulser les personnes en 72 heures et tout le monde m'a fermé la porte. Les gendarmes ont même retorqué que je n'avais pas intérêt à rentrer dans la maison ou dans le terrain parce que ce monsieur était j'avais pas le droit de rentrer chez lui en fait.
Parce qu'il était devenu de fait l'habitant de cette maison.
Voilà, exactement. Donc ça a été le point de bascule d'être rejeté par l'administration, par les forces de l'ordre.
Ça vous a rendu dingue, on peut dire les choses comme ça.
Oui, on peut dire les choses comme ça, ça m'a rendu dingue, d'autant plus que moi j'avais quand même deux épées de Damoclès au-dessus de la tête, c'est que j'avais des frais de succession à régler rapidement.
Oui.
Et également une vente qui était on avait consigné le compromis avec un promoteur. Et cette vente, si elle ne se faisait pas, je pouvais pas payer mes droits de succession.
C'est ça. Donc, en fait, il y avait une sorte d'enchaînement de circonstances. Voilà. Je précise d'ailleurs que cette maison qui était donc inoccupée depuis 2020, qui a été squattée par ce monsieur, non seulement il l'a squattée, il a changé les serrures, il a changé le compteur électrique et il a même installé la fibre.
Chez
votre père.
Tout à fait. Voilà.
Donc vous écrivez au préfet, vous sollicitez la force publique, finalement rien ne se passe et effectivement vous avez à ce moment-là
pris la mauvaise décision.
On en est où au moment où on se parle, Karine? Est-ce que la maison a été libérée? Est-ce que vous avez pu la vendre? On en est où?
Alors la maison, je ne sais pas si elle est libérée. Par contre, oui, effectivement, j'ai vendu à ce promoteur au 10 octobre. Sauf que vu que la maison était squattée, il m'a fait vraiment une grosse moins-value sur la maison. Il m'a demandé 80 000 euros pour le dédommagement du fait que le squatteur soit dans la maison.
Mais vous l'avez vendu squatté,
en
quelque sorte.
Oui, c'est ça vendu, oui.
Donc vous avez été condamné et vous allez devoir payer. Le squatteur, vous devez lui payer des dommages de 1200 euros. Vous demandez à ce que la loi change. Enfin, c'est-à-dire, vous dites, quand on voit mon parcours, c'est du délire.
Oui, voilà. Parce que maintenant, moi, l'affaire, elle est derrière moi. J'accepte ma peine. Je ne ferai pas appel.
D'accord.
J'ai plus envie. Je suis fatiguée de me battre avec tout ce qui m'est arrivé. Je vais vous dire que c'est très fatigant. Et puis, je pense que je sers d'exemple et je vais servir d'exemple jusqu'au bout. Parce qu'effectivement, on ne doit pas se faire justice soi-même. Mais par contre, d'un autre côté, il y a d'énormes failles dans la loi. Parce qu'elle est très, très restrictive. En fait, il faut pouvoir prouver le fait qu'il y a eu effraction. Donc, à la limite, il faudrait mettre des caméras devant les portes pour qu'on voit quelqu'un rentrer dans l'habitation. Et ça, on n'a pas forcément les moyens de le faire ou l'idée de le faire. Et parce que moi, on m'a dit que le squatteur, donc quand il a été interrogé par la gendarmerie, oui, il a dit que la porte était ouverte. Il avait trouvé une porte ouverte, donc il s'était installé. Par contre, moi, en aucun cas, que ce soit la gendarmerie ou le bureau du préfet, m'a dit, bon, madame, voilà, il a dit ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'effectivement la maison était ouverte ou elle était fermée? Bon, on ne m'a jamais demandé. Par contre, sur les constats d'huissier, on voit bien des serrures neuves, alors qu'on habite sur le bassin d'Arcachon. Quand elles sont récentes, effectivement, elles sont toutes rutilantes, mais
ce qui est vrai, c'est que cette petite, d'ailleurs, vous n'êtes pas la seule, autour de cette question de il faut prouver qu'il y a eu effraction pour rentrer, c'est aussi la faille dans laquelle se sont glissés un certain nombre de squatteurs. On avait eu le témoignage ici même de Pierre, dont le studio a été squatté par des anciens locataires Airbnb qui ne sont donc pas rentrés par effraction, qui sont rentrés tout simplement parce qu'ils avaient loué le bien pour une semaine. Merci en tout cas Karine Lelouch d'avoir témoigné ce matin sur RMC, vous qui êtes donc qui avez donc été victime de ce squat condamné par la justice. En tout cas, tenez-nous au courant s'il y a la moindre évolution dans cette affaire. Il est 7h19 sur RMC et pendant ce temps-là, l'historien d'Apolline Matin s'est glissé dans ce studio. Bonjour Arthur Chevalier.
Bonjour Apolline.
Arthur, Luigi Mangione a été présenté à un juge avant l'ouverture de son procès cette semaine. Il sera jugé pour avoir tué le patron d'une des plus grandes compagnies d'assurance aux États-Unis.
Oui, et contre toute attente, cet assassin est très soutenu par la population. Les meurtriers qui deviennent des justiciers, c'est pas nouveau, y compris en France.
Et vous nous en faites l'histoire dans un instant. Il y aura aussi Arnaud Demange qui va venir pirater le face-à-face. Mon invité, c'est Marine Le Pen ce matin. Ne bougez pas, on se retrouve dans 60 secondes sur RMC, 7h19.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h20, vous êtes bien sur RMC. On va remonter le temps comme chaque matin avec Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, procès aux États-Unis de Luigi Mangione. C'est cet homme qui, il y a un an, avait tué le PDG d'une des plus grandes compagnies d'assurance médicale des États-Unis. Le procès qui s'ouvre dans une ambiance un peu particulière, il faut le dire.
Oui, puisque Luigi Mangione est devenu une véritable star. Il avait justifié son meurtre en dénonçant les assurances maladies qui, je cite, exploitent les Américains. Ce discours l'a rendu très populaire auprès de ceux qui vivent dans la précarité, et ils sont nombreux aux États-Unis, à tel point qu'une cagnotte pour financer ses avocats a recueilli 1,35 million de dollars.
Ah oui, ils vont être bien payés les avocats. C'est la première fois qu'un meurtrier est à ce point starisé.
Alors non, c'est pas la première fois, et le premier du genre, c'était en fait une meurtrière, et pas un meurtrier. Nous sommes sous la Révolution française, à l'époque de la terreur, quand les révolutionnaires exécutent leurs opposants par centaines. Tout le monde a peur, sauf une femme, justement. Elle s'appelle Charlotte Corday, et un matin, elle s'introduit dans l'appartement d'un des leaders révolutionnaires les plus sanguinaires. Il s'appelait Jean-Paul Marat, et alors qu'il est dans son bain, Charlotte Corday arrive et le poignarde de sang-froid, il meurt sur le coup.
Et elle est arrêtée ?
Oui, mais pendant son procès, elle assume tout et déclare « J'ai tué un homme pour sauver la vie de 100 000 ». Après sa condamnation à mort, elle devient une martyre de la Révolution, adorée, adulée. Aujourd'hui, c'est encore le cas.
Et plus près de nous, on a connu des cas semblables ?
Ah bah oui, au début du XXe siècle, la bande à Bono fait trembler la France. Ces jeunes gangsters multiplient les braquages et les assassinats et ils s'en vantent. Pour eux, voler les riches, c'est faire la révolution. Alors sur le moment, ça n'a pas vraiment d'écho. Mais dans les années 30, on crée un mythe autour de la bande à Bono. Ils deviennent les résistants d'une société corrompue et Boris Vian va même leur consacrer une chanson.
Et puis Pierre Goldman.
Et oui, Pierre Goldman qui est le demi-frère de Jean-Jacques Goldman, le chanteur. C'était un militant d'extrême-gauche qui tombe dans le banditisme. En 1970, il est arrêté pour un double meurtre. Des faits qu'il va nier, mais il est quand même condamné. Sauf que Goldman était très populaire. Il est soutenu par des personnalités de gauche et pas n'importe lesquelles. La comédienne Simone Signoret, l'écrivain Jean-Paul Sartre et même François Mitterrand en personne. Deux ans plus tard, son procès est révisé, il est acquitté.
Et pour vous, on arrive à peu près au même phénomène là avec Luigi Mangione aux États-Unis ?
Bah franchement, ça y ressemble. Il reçoit des soutiens par milliers, mais faisons la part des choses. On peut penser que le système de santé américain est profondément injuste sans justifier l'assassinat des assureurs. Dans un état de droit, les criminels ne sont pas des héros romantiques, Apolline. Ce sont les ennemis de la société, des Robin des Bois en carton.
7h23, Arnaud Demange qui nous rejoint.
RMC.
De Manche Pirate, le face-à-face.
Et bonjour Arnaud.
Bonjour.
Dans le face-à-face tout à l'heure, dès 8h15, sur AMC BFM TV, je reçois Marine Le Pen, la patronne du groupe RN à l'Assemblée.
Oui, c'est un nom qui me dit quelque chose.
Oui.
Marine Le Pen. Marine, c'est pas la meuf blonde qui était à la mode avant Jordan Bardella. C'est elle, hein, c'est ça. Hein, ouais. Elle a pas dû très bien le prendre d'ailleurs, le sondage qui donnait Jordan Bardella vainqueur au second tour face à tous ses concurrents. D'ailleurs, au RN, les cadres, vous avez vu, ils sont hyper gênés. À chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, ils disent « Non, mais la candidate légitime, c'est Marine Le Pen. » Partout où ils croisent, partout où on les croise, pardon. J'ai croisé Jean-Philippe Tanguy à la boulangerie l'autre jour. Mmh. « Et pour vous, qu'est-ce que ce sera ?»« Ce sera Marine Le Pen, parce que c'est la candidate légitime. » « Ah ben, je suis désolé, j'en ai plus. » À cause des juges rouges, on en a plus. Vous mettez un Bardella aux œufs à la place? Alors à 8h30, Apolline, petit défi, faites un jeu avec Marine Le Pen. Ah. Ni oui, ni non, ni je suis la candidate légitime. Marine Le Pen, bonjour. Je suis la candidate légitime. Oh, c'est déjà perdu. Ça va venir vite. Autre chose, en ce moment, c'est le vote du budget à l'Assemblée et le Parti Socialiste. Donc c'est pas les mêmes, hésite à censurer le gouvernement. Si ça se passe mal, je suis sûr que Marine Le Pen appelle Olivier Faure en cachette dans un « Censure ! Mais censure ! Comme ça on va foutre Jordan à Matignon, on va se rendre compte qu'il est nul, je serai débarrassé de lui pour 10 ans !» Et Olivier Faure en face « Écoutez Madame Le Pen, je réfléchis. Oh la petite bête, il est pas capable de censurer !» Madame, cette technique grossière ne marchera pas. Oh la poule mouillée ! Alors elle est quand même censée avoir Matignon si Bardella passe. Après on n'est pas à l'abri qu'elle se fasse avoir, que Bardella lui refile un poste de secrétaire d'État aux chatons et aux anciens combattants. C'est pareil, hein. Ça a l'air paradoxal, mais c'est pareil.
Les chatons, les anciens
combattants. Oui, c'est pareil. Les deux, ils se lavent en se bavant dessus maintenant.
Oh non. Est-ce que... Oh, je l'avais pas vu venir.
Ben oui. Non. C'est une de honte. Est-ce qu'elle va venir à votre interview avec un chaton? Oui, oui, elle est déjà là. Mais c'est son truc. Elle devait choisir, entre un programme économique crédible et un chaton mignon. Elle a pris le chaton. Déjà, Macron nous avait fait le coup, hein, en nommant Attal à Matignon. Gabriel, fais le chaton, les gens aiment bien. Miaou, hein. Miaou, hein. Non, monsieur le président, hein, c'est ridicule. Allez, miaou, miaou, un hein, miaou, hein. Miaou, et puis ça n'avait pas tenu, en final. Allez, rendez-vous avec Marine Le Pen à 8h15. Miaou, hein.
15 tout à l'heure. Marine Le Pen qui sera donc mon invitée dans le face-à-face. Il est 7h25 et c'est déjà Noël. Mais oui, c'est déjà Noël dans Apolline Matin. Un fabuleux Noël grâce à RMC. Vous allez pouvoir ouvrir le calendrier de l'Avent tout à l'heure. À gagner des MacBook Air, des vacances, des iPhones. On a offert hier un iPhone 17, le tout dernier iPhone. Il y a aussi des PlayStation 5, une Switch 2 avec Micromania Zing. Et plein d'autres cadeaux à découvrir donc jusqu'au 24 décembre chaque jour. On ouvre une petite case. Pour jouer, c'est maintenant. Vous envoyez Noël au 7-32-16. Noël au 7-32-16. Le gagnant sera en direct avec nous à 8h20. J'étais trop contente de faire gagner un iPhone 17 hier. Qu'est-ce qui se cache aujourd'hui dans le calendrier de l'Avent? On le verra bien. Donc Noël au 7-32-16, bonne chance à tous. Dans un instant, la météo et le journal de 7h30. Et puis dans 10 minutes, il faut sauver le soldat Brandt. Brandt, la marque française en grande difficulté. Les salariés ont un plan pour sauver leur usine. Le ministre de l'Industrie soutient le projet. Le ministre de l'Industrie qui est mon invité à 7h40 sur RMC. Il est 7h26, on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Il est 7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal de l'Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. C'est un incendie volontaire qui a tué 5 personnes ce week-end à 9 maisons en Meurthe-et-Moselle. Le procureur l'a confirmé hier. On sera sur place dès le début de ce journal. Un témoignage RMC ce matin de l'un des membres de la famille de l'agriculteur qui comparaît pour avoir jeté un œuf sur la tête de Jordan Bardella. Et puis après une hausse d'un peu plus de 7% l'an dernier, les prix de nos contrats d'assurance habitation vont encore bondir l'an prochain, plus 10% en moyenne selon l'UFC Que Choisir.
L'effroi est immense en Meurthe-et-Moselle.
Car au-delà du drame qui s'est déroulé ce week-end à 9 maisons au sud de Nancy, 5 personnes tuées dans l'incendie d'un immeuble, un couple de sexagénaires, leur fils de 16 ans et deux amis de la famille, très jeunes aussi. Ce sont les premières conclusions des enquêteurs qui interpellent. Julie Brault, vous êtes sur place en direct pour RMC. Et ce qu'on sait ce matin, c'est qu'il s'agit d'un incendie volontaire, mais c'est la seule information dont on dispose pour le moment.
Et oui, pour quelle raison cet immeuble de 3 étages situé en plein centre-ville a-t-il été ciblé par un incendiaire? Voilà la question qui est encore sur toutes les lèvres ce matin. Était-ce un règlement de compte, un crime lié au trafic de stupéfiants ou bien une réponse à une dette non payée par le plus âgé de la fratrie, seul survivant de cet incendie? Une dernière hypothèse suggérée par un proche de la famille qui a fait une déposition à la gendarmerie hier. À ce stade, le mystère reste entier autour de cet immeuble au mur noirci par les flammes et dont les entrées sont toujours condamné ce matin par des rubalises de gendarmerie. À l'intérieur, les enquêteurs ont réalisé de nombreux prélèvements pour tenter de retrouver une trace menant à l'incendiaire de ce bâtiment où les 5 victimes ont été piégées dans les flammes au 2e étage, alors qu'au rez-de-chaussée, un magasin vendant du CBD, composant du cannabis autorisé à la vente, est lui aussi parti en fumée.
Julie Brou en direct de Neuve-Maison pour RMC. François Hollande, victime d'un cambriolage à son domicile parisien avec sa compagne Julie Gaillet. C'était le 22 novembre dernier, on l'a appris hier. 2 hommes ont été interpellés la semaine dernière et mis en examen pour vol en bande organisée. Une montre a notamment été dérobée avant d'être restituée par les enquêteurs à l'ancien président. C'est ce matin à 9h que sera jugé en comparution immédiate le retraité qui a jeté un œuf sur la tête de Jordan Bardella samedi lors d'une séance de dédicace à Moissac, un ancien agriculteur qui n'en est pas à son coup d'essai. Il avait infligé le même sort à Éric Zemmour et aussi au bus de campagne de Marine Le Pen. L'un des membres de sa famille témoigne ce matin sur RMC.
C'est un peu le coup de trop, voilà, c'est ce que j'ai dit. Parce que bon, il aime bien après toutes les encouragements, les félicitations et tout ça, mais bon, ça c'est... Comme j'ai dit, c'est pas à titre individuel qu'on fera changer les choses, c'est à titre collectif, c'est à plusieurs, c'est pas tout seul. Tout seul, lui, il fait tout seul. En plus, à sa famille, il a même pas dit qu'il allait là-bas. De toute façon, il a pas de parti politique, il est apolitique, lui. Je crois qu'il a payé le gros lot, lourd tribut. Et j'ai dit, maintenant, il faut arrêter les conneries, quoi. Et d'ailleurs, lui-même, il le dit.
Et ne manquez pas, ce matin, l'invité du face-à-face, c'est Marine Le Pen et ce sera dès 8h15 sur RMC BFM TV.
Il est 7h33 et c'est une information qu'RMC vous révèle en exclusivité ce matin. 7 parents sur 10 vont devoir cette année rogner sur leurs dépenses pour pouvoir offrir des cadeaux de Noël à leurs enfants. Résultat du 6e baromètre IFOP pour l'association Don Solidaire et ce sont surtout les sorties et les vacances qui vont en pâtir. On y revient dans le journal de 8h. Et pour ne rien arranger, les contrats d'assurance habitation continue de flamber, des prix qui grimpent, plus 7% l'an dernier en moyenne, plus 10% l'an prochain pour des prestations qui ne sont pas toujours à la hauteur. Selon l'UFC Que Choisir qui publie ses chiffres ce matin, les litiges entre assureurs et assurés ont été multipliés par 5 l'an dernier, Louise Salé.
Dans la Sarthe, après un épisode de sécheresse en 2020, les murs de la maison de Dominique ont commencé à se fissurer. Sa commune a obtenu la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, ce qui lui a permis de solliciter son assurance.
J'ai fait ma déclaration dans les temps à la compagnie d'assurance, qui a délégué un expert. Et à ma grande surprise, mon dossier a été refusé d'une fissure qui faisait quelques centimètres, j'allais dire. Maintenant, je peux passer la main et je suis obligée de calfeutrer avec des cartons. Moi, j'ai pas eu d'autre solution. J'ai été obligée d'attaquer ma compagnie d'assurance.
Les experts ont suscité des incompréhensions également dans le Pas-de-Calais après les inondations de 2023 et 2024.
Les experts ont parfois été très généreux dans une maison et dans la maison d'à côté, tout au contraire.
Gérard, responsable d'une association locale de sinistrés, déplore de grandes inégalités de traitement.
On a eu des personnes qui ont eu leur assurance qui a très vite verser un acompte. Et tout au contraire de ça, on a encore des gens en ce moment qui sont en conflit avec leurs assureurs.
Dans son rapport, l'UFC Que Choisir propose de pouvoir réaliser une contre-expertise indépendante.
7h35 en football, la Vendée a tiré le gros lot et retrouvera en Coupe de France 3 équipes de Ligue 1, dont le PSG. Une belle surprise pour le club de Vendée-Fontenay Football, pensionnaire de 5e division. Arnaud Valadon.
En visio avec le reste de l'équipe, Enzo Renoux, présent au tirage au sort au Parc des Princes, savoure. Vainqueur samedi 4-1 de Châteauroux, club supérieur de 2 niveaux, Vendée-Fontenay Football avait au tour précédent signé une performance inédite. Il avait éliminé Cholet après une séance dantesque de 40 tirs au but. Enzo Renoux, attaquant vendéen, fan du PSG, n'en revient toujours pas de jouer son club de cœur.
C'est fou de jouer le PSG. J'étais là l'année dernière dans les tribunes contre PSG-Liverpool, PSG-Arsenal. Et là, jouer contre eux maintenant, c'est exceptionnel, c'est un rêve.
Présent également au parc, Rudy Boutin, défenseur, est fier d'accueillir Dembélé et ses coéquipiers.
Champion d'Europe.
d'Europe, Ballon d'Or. C'est le meilleur club en ce moment presque au monde, donc c'est une folie. C'est une folie, ça va être un beau match et puis un beau rendez-vous pour notre club. En 15 jours, ce sera une belle fête.
Le stade de Fontenay-le-Comte, avec 3500 places, ne va pas pouvoir accueillir le PSG. Le club vendéen pourrait se tourner vers la Beaujoire à Nantes ou alors Niort, plus proche à 30 km.
Des 32e de finale qui seront à suivre sur RMC. Les suites des débordements dimanche soir à l'encontre de joueurs de l'OGC Nice, deux joueurs qui ont porté plainte contre X après les échauffourées avec les supporters au centre d'entraînement après leur 6e match de suite perdu contre Lorient.
Et puis le quintet, 13h55 sur l'hippodrome de Deauville.
Et voici le prono de la Dream Team des courses RMC. Le favori aujourd'hui, c'est l'As Divine Chris Nat. L'outsider, c'est le 11 Célestial.
C'était le journal des listes d'Angers. Il est 7h30 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Le compte à rebours est lancé. Il reste 24 heures pour sauver l'un des fleurons du Made in France. Bonjour Sébastien Martin.
Bonjour.
Vous êtes le ministre de l'Industrie. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. L'avenir de l'entreprise Brandt se joue demain devant le tribunal de commerce de Nanterre. 700 salariés du groupe qui se disent prêts à reprendre leur entreprise et vous les soutenez. Est-ce que ça peut suffire pour sauver l'entreprise? Je vous pose la question dans un instant. Et puis, vous qui nous écoutez sur RMC, vous êtes peut-être ouvrier ou travaillez dans le domaine de l'industrie. Est-ce que vous avez le sentiment que l'industrie est menacée en France? Appelez-nous ou venez interpeller le ministre. Vous connaissez le chemin, le 3216 ou le WhatsApp 0612 424 424. A tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Excellent réveil à tous. Il est 7h40 sur RMC. Il faut trouver au moins 25 millions d'euros d'ici demain pour sauver l'entreprise française Brandt. Les salariés se mobilisent. Mais vous aussi, Sébastien Martin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le ministre délégué chargé de l'industrie. Est-ce que l'État est prêt à mettre au pot pour sauver Brandt?
Oui, d'ailleurs, je l'ai dit. Je me suis rendu sur place hier matin à Orléans, rencontrer les salariés. Rencontrer les élus et effectivement l'État est prêt à accompagner le projet. J'ai annoncé un soutien à hauteur de 5 millions d'euros, ce qui aussi a déclenché un soutien de la métropole et je tiens vraiment à remercier son président Serge Grouard à hauteur de 5 millions d'euros et puis également la région. François Bonneau a annoncé également un soutien à peu près à la même hauteur, donc on est déjà
à 15. Donc là vous en êtes à combien là?
On est déjà à peu près à 15 millions d'euros
qui sont mobilisés.
Et ben il faut encore maintenant
24
heures pour trouver
10 millions.
Je profite de ma présence sur votre antenne pour dire aux banques qu'il faut qu'elles jouent le jeu et dire aux banques qu'il faut qu'elles fassent un peu transpirer leur règlement, parce que je sais qu'en 24 heures, c'est pas facile de trouver comme ça, de prendre des engagements pour accompagner un projet. Mais derrière, il y a quand même une entreprise qui représente 700 salariés aujourd'hui, des marques qui sont partout chez chacune des Françaises et des Français, et pas que les Françaises et les Français. Et surtout, il y a des savoir-faire que moi j'ai vu hier, on m'a fait la démonstration de ce qu'on savait faire là-bas, des technologies qu'on utilisait. C'est pas du tout une entreprise du passé, bien au contraire. Et donc je crois que je profite de votre antenne pour dire que s'il y a des gens qui veulent sauver l'industrie française, il y a encore 24 heures pour le faire, et d'être un peu patriote,
alors,
ça ferait pas de mal.
Je suis très touchée que vous pensiez que sur RMC, les banquiers vont tout à fait tout changer et trouver 10 millions. Je suis quand même un tout petit peu surprise que vous, ministre de l'Industrie, ça se passe comme ça, en les prenant à partie sur une antenne de médias.
Non, mais il y a eu une réunion hier.
Ça veut quand même dire que les banquiers, aujourd'hui, ne jouent pas le jeu.
Y a
vous
une
êtes
réunion...
obligé de le dire publiquement.
Je dis aujourd'hui qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et que si on utilise les
pourquoi
process...
Pourquoi on n'a pas beaucoup de temps? Je rappelle...
Parce que demain
choses,
matin, il faut que le dossier aille au tribunal.
Le tribunal de commerce de Nanterre va donc décider du sort de Brandt.
C'est
et
ça.
Il faut que le dossier soit ficelé.
Il faut que le dossier soit ficelé, qu'on ait des engagements à la hauteur de ce que sont capables de faire les collectivités et pouvoirs publics. Et ben, il faut aussi que les investisseurs privés, que les banquiers répondent à cet appel. Parce que derrière vous, c'est l'image de cette usine. Moi, j'y étais hier. Il y a vraiment des gens qui sont attachés à un savoir-faire. Il y a vraiment des marques... Enfin, je veux dire, Brandt, c'est aussi De Dietrich. Tout le monde connaît ces marques-là. Et je pense que si à Noël, on a envie de faire quelque chose pour l'industrie française, il serait peut-être temps de se bouger.
En gros, vous dites même quasiment qu'il faut acheter des Brandt pour les mettre sous le sapin dans les cadeaux de Noël.
Je dis juste
relançons de manière patriotique Brandt.
Je dis juste que ce qui a été fait, par exemple, avec Duralex, exactement dans la même région, parce que Duralex, c'était aussi dans la région d'Orléans. Aujourd'hui, c'est ce que cherche à faire et un investisseur et les salariés de Brandt, c'est-à-dire une SCOP, exactement ce qui a été fait pour Duralex. Et aujourd'hui, regardez, Duralex est reparti. Alors peut-être
Duralex
qu'on peut faire la même chose.
Avec parfois des moments difficiles, mais avec aussi le public au rendez-vous.
Exactement.
Duralex, les salariés Duralex viennent de lever 19 millions d'euros de promesses d'investissement de particuliers, hein, oui. De tout un chacun, des Français qui ont décidé de mettre une part de leurs économies dans Duralex. Le contexte, il est quand même difficile pour ce type d'entreprise. Et puis l'industrie qui globalement souffre, je voudrais encore vous interroger sur ce dernier chiffre que l'on vient d'obtenir, moins 0,3% en novembre sur un an pour l'industrie automobile. Stellantis qui va encore réduire fortement sa production en France d'ici 2028, moins 11% en 3 ans. Est-ce qu'on est quand même au bout d'un cycle ?
Écoutez, la situation sur l'automobile, ça fait maintenant depuis 2019 qu'elle est difficile. Depuis 2019, on est passé d'un peu plus de 2 millions d'immatriculations, 2,2 millions à 1,7 million d'immatriculations aujourd'hui. D'ailleurs, je réunis toute la filière en sortant de votre studio en fin de matinée. Il y a eu plusieurs effets. D'abord, les prix des automobiles ont énormément augmenté juste après la crise Covid. Ça a été lié notamment au problème de semi-conducteurs, à une montée en gamme. Voilà, aujourd'hui, les choses sont en train de bouger aussi sur l'automobile. On travaille sur le petit véhicule électrique notamment. Je crois qu'il y a des évolutions
à
voir.
Ça peut rebondir.
Ça peut rebondir, bien évidemment. Le marché de l'automobile, il n'est pas condamné. Bien évidemment que ça peut rebondir. D'ailleurs, au mois d'octobre, là, les chiffres de novembre, c'est une quasi-stabilité. Au mois d'octobre, le marché des immatriculations avait augmenté de presque 3% en France. Donc, il y a aussi sur le véhicule électrique, et moi, j'en ai marre qu'on dise n'importe quoi sur le véhicule électrique, parce que le véhicule électrique, finalement, il a aussi tiré les ventes d'automobiles en France, puisque nous sommes arrivés au mois de novembre à un véhicule sur quatre vendu qui est un véhicule électrique. Je rappelle qu'en 2019, c'était 1,9%. Donc la marge de progression, elle est encore là pour arriver à 100% un jour. Mais aujourd'hui, on est à 25%. On est passé de quasiment zéro
à 25%. À 100%, les 100%, c'est censé quand même être demain. C'est-à-dire, c'est censé être en 2035, hein, si on écoute l'Union européenne. Donc on n'y est pas encore quand même, franchement.
Non, on n'y est pas.
En termes, je veux dire, d'achat des particuliers, ils sont pas non plus au rendez-vous. On a voulu mettre la charrue avant les bœufs.
Il y a encore des freins. D'abord, 2035, c'est pas demain. On est en 2025. Ouais. Il reste encore 10 ans. C'est vrai que c'est un changement de technologie. Et un changement de technologie, ça s'accompagne, ça prend du temps. Donc d'ailleurs, à ce sujet, la France dit une chose très simple. 2035, il faudra sans doute la s'oublier, mais il faut privilégier l'industrie européenne.
Et je voudrais qu'on accueille Vincent, qui nous appelle de Neuville-sur-Saône, dans la métropole de Lyon. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur, vous travaillez dans l'industrie spécialiste du repoussage, qui est donc une méthode, je crois, ancestrale de déformation des métaux. Et vous vouliez témoigner sur la difficulté aujourd'hui de l'industrie en France. Vous le vivez au quotidien.
C'est ça. Nous sommes du coup, c'est une vieille technique qui existe depuis très longtemps. Et nous sommes un acteur majeur du coup dans l'aéronautique et la défense.
Ouais.
Et on remarque au fur et à mesure des années que il y a de plus en plus de difficultés, de moins en moins d'acteurs qui pensent avec cette technologie, parce que c'est quelque chose qui est oublié, qui n'est plus appris à l'école.
Vous avez peur que ça disparaisse ?
Ça, c'est en train de disparaître, c'est sûr, parce que même que ce soit pour les gens qui pensent à fabriquer des pièces par repoussage, ils n'y pensent plus parce que on n'en parle plus à l'école dans le cadre des développements, mais aussi, surtout, dans le cadre de la formation pure de repousseurs, elle n'existe plus depuis plus de 20 ans.
Donc vous appelez à ce qu'on relance cette formation ?
C'est ça, et c'est le cas dans tous les métiers, en fait, industriels purs, manuels, ou avec un savoir-faire exceptionnel, que ce soit dans les métiers simples, de l'usinage, de tout ça, on sait les fabriquer en commande numérique, mais on oublie vraiment la réalité de la réalisation.
Est-ce que la réindustrialisation, je vais poser la question tout de suite au ministre, est-ce que la réindustrialisation, ça passe pas aussi par ça, c'est-à-dire par le fait que la formation remette le paquet sur les métiers de l'industrie comme celui de Vincent ?
Mais bien sûr, ce que dit Vincent est très vrai, c'est-à-dire que finalement, comme notre économie s'est tournée énormément vers les services et un peu moins vers l'industrie, les formations ont suivi le même mouvement. Et donc vous avez certaines formations qui ont disparu et pourtant dont on a besoin. Et Vincent travaille plutôt dans des secteurs qui en ce moment, que ce soit l'aéronautique ou l'armement, sont plutôt des secteurs qui sont en dynamique. Donc là, c'est pas forcément un problème de débouchés. C'est une question de compétences et de formation. Moi, je prône l'idée qu'il faut absolument que les formations se rapprochent beaucoup plus des territoires industriels. Les formations sont beaucoup plus concentrées dans les grandes villes, dans les métropoles, autour des métiers de service. Bien sûr, on travaille dans ce qu'on appelle le programme territoire d'industrie. Il y a 164 territoires d'industrie à travers la France qui regroupent en général plusieurs intercommunalités. Un des sujets de travail, c'est le sujet des compétences. Et ça se fait certes avec l'État et avec l'éducation nationale, mais ça peut se faire aussi avec les organisations professionnelles. Il y a des CFA, des métiers de l'industrie, qui existent dans beaucoup de villes et qui sont soutenus dans le cadre de ce programme.
L'Assemblée nationale a voté la nationalisation d'ArcelorMittal. Vous en pensez quoi ?
Moi, j'en pense qu'on peut aussi tout nationaliser et puis penser que ça va régler les problèmes de notre économie. Mais nationaliser ArcelorMittal France, c'est-à-dire que, en fait, vous prenez une entreprise, puis vous la coupez de son amont. C'est-à-dire, par exemple, le minerai qu'il va falloir mettre dans les forges pour pouvoir faire de l'acier. Puis vous la coupez de son aval, parce que le groupe ArcelorMittal, et ce qui est produit à Dunkerque, par exemple, une grosse partie de la production va dans les entreprises du groupe ArcelorMittal.
Quand vous regardez les Anglais, ils font ça pour British Steel?
Oui, je crois qu'ils perdent 700 000 livres par jour.
Donc pour vous, donc
moi je veux bien qu'on fasse finalement un cadeau à ArcelorMittal, parce que si on nationalisait ArcelorMittal, d'abord un, on fait un énorme chèque de 6 ou 7 milliards d'euros pour acheter ArcelorMittal. Ensuite, c'est nous qui prenons les pertes que lui absorbe à l'intérieur de son groupe d'un peu plus de 300 millions d'euros chaque année. Et ensuite, bien évidemment, bah on se coupe du reste du groupe, donc on n'a plus l'amont pour mettre dans nos fourneaux, et on n'a plus l'aval pour écouler notre acier. Donc je trouve tout ça d'une logique absolument dingue, où on a vu l'ERN et LFI se retrouver main dans la main pour un discours anti-économique et qui n'avait ni queue ni tête.
Merci beaucoup Sébastien Martin, ministre délégué chargé de l'industrie. Vous mentionniez le RN. Notez que Marine Le Pen est mon invitée à 8h15 sur RMC et BFM TV. Merci aussi à Vincent. Vincent qui nous appelait depuis la métropole de Lyon et qui plaide pour la technique ancestrale du repoussage. Cécile Duflo est entrée dans ce studio. Bonjour Cécile.
Bonjour.
La voix de gauche sur RMC tous les mardis. Il y a ce dépôt des listes, qu'on appelle les listes Shabada, c'est-à-dire un homme, une femme pour les municipales. Eh ben, certains s'en plaignent, disent qu'ils n'arrivent pas à trouver de femmes. Vous avez un appel à lancer, Cécile Duflo.
Ils ont tort, c'est une très bonne nouvelle. C'est ce qui va permettre qu'il y ait plus de femmes élues dans les petites communes. Et j'appelle les femmes à s'engager, qu'elles n'aient pas peur de le faire.
Vous le dites dans un instant, il est 7h50.
RMC, Apolline Matin.
Dans un instant, Cécile Duflo et les listes Shabada. Mais d'abord le bonus, Mathieu, avec un ancien ministre qui pousse la chansonnette.
Je ne parlerai pas.
Est-ce que vous le reconnaissez ?
Je ne penserai rien.
Non.
C'est Jean-Michel Blanquer. Alors, si vous avez aimé Bruno Le Maire en librairie, vous apprécierez peut-être l'ancien ministre de l'Éducation nationale en musique. Quoique, attention, vous avez peut-être sa voix en tête. Là, c'est assumé. C'est un projet IA, de la pure intelligence artificielle avec laquelle s'est amusé l'ancien ministre. Il voulait tester en conditions réelles ces outils qui permettent aujourd'hui à un amateur complet de faire un disque. Alors, il a soumis quelques vers d'Arthur Rimbaud. Il a imaginé l'intention et laissé l'IA composer la mélodie, choisir l'orchestration et lui générer une voix de chanteur. Ça s'appelle « Comme une femme ».
Je ne parlerai pas.
Alors, l'ancien ministre revendique un peu de légèreté. Il a voulu s'amuser, mais il en profite aussi pour relancer un débat sur l'émergence de l'intelligence artificielle qui crée des peurs, dit-il. Mais voilà, vous avez Jean-Michel Blanquer en chanson.
Je ne parlerai pas. Je ne penserai rien. Mais l'amour infini me montrera dans l'âme.
RMC, Apolline Matin,
voix de gauche,
voix de droite.
Il est 7h53 et c'est l'heure de la voix de gauche ce matin sur RMC avec Cécile Duflo. Bonjour Cécile.
Bonjour Apolline.
Les élections municipales, c'est donc dans 3 mois. La parité sera pour la première fois obligatoire sur toutes les listes, même dans les petites communes, les communes de moins de 1000 habitants. Pour vous, c'est une chance?
Et oui, c'est une chance, parce que les chiffres sont têtus. En 1990, avant la loi sur la parité, il y avait 20% de femmes parmi les conseillers municipaux. Aujourd'hui, c'est 42,2% et c'est grâce à cette loi. Comment on peut savoir? Parce que dans les villes de plus de 1000 habitants, là où il y a la loi, c'est 48,8%. Et dans les villes de moins de 1000 habitants, enfin dans les villages, c'est 37,4. Donc on voit de façon évidente l'effet de la loi.
Alors, quand même, ils disent que c'est difficile de les faire, ces fameuses listes. Est-ce que ça veut dire aussi que les femmes ne veulent pas être candidates?
Alors, c'est ce qu'on dit souvent. C'est ce qu'on disait d'ailleurs avant la loi sur la parité. Mais ça prend racine dans une vieille histoire. Une vieille histoire parce que la France a été un pays où le droit de vote des femmes a été accordé très tardivement, avec des phrases assez dingue. Le sénateur Bérard, il disait, plus que pour manier le bulletin de vote, les mains des femmes sont faites pour être baisées, baisées dévotement, amoureusement quand ce sont des femmes et des fiancées. Séduire et être mère, c'est pour cela qu'est faite la femme. Voilà ce qu'on disait avant d'autoriser les femmes à voter. Donc c'est ça l'histoire.
Bon, après, aujourd'hui, il y a un certain nombre de femmes qui disent quand même que c'est très contraignant et il y a un problème de disponibilité, c'est pas un problème politique.
Oui, alors j'ai entendu, d'ailleurs sur cette antenne, un maire dire c'est compliqué parce qu'elles ont plus de choses à faire à la maison, en gros. Alors ça c'est vrai que pour le coup, il y a une vraie inégalité dans les tâches ménagères, mais ça c'est très politique. Il n'y a aucune raison que les femmes fassent plus de tâches ménagères que les hommes. Et pourtant, là où c'est fou, c'est qu'il y a autant de bénévoles hommes que de bénévoles femmes. Et pourquoi
dans les associations.
Exactement, dans les associations. 50-50. Mais dès que c'est des présidents, il y a plus d'hommes. Mmh. Et d'ailleurs, c'est la même chose pour les maires. Je l'ai dit, 42,2% des conseillers municipaux sont des femmes. Et pourtant, les maires, c'est 20%. Et on voit bien que la courbe, eh ben, elle progresse très, très doucement.
Donc, il faut continuer à appliquer. Il faut absolument leur dire, allez-y.
Oui, et puis je voudrais parler aux femmes qui, comme moi, quand j'avais 17 ans, trouvaient que vraiment, la loi sur la parité, c'était pas juste, qu'on devait être élu sur nos mérites et pas par une loi. Et en fait, en vrai, ça ne marche pas. Et donc, il y a une très jolie femme de Viviane Reding, qui est une ancienne commissaire européenne, qui dit, et je partage 100%, je n'aime pas les quotas, mais j'aime ce qu'ils produisent. Ben, ce qu'ils produisent, les quotas, c'est que des femmes deviennent élues. Et donc, il faut que cette loi s'applique sur les villes, les villages de plus de moins de 1000 habitants. Et je le dis à toutes les femmes qui nous regardent, engagez-vous, vous verrez, c'est passionnant d'être au service de la collectivité. Et vous êtes évidemment aussi capables que les hommes, peut-être même plus parfois.
L'appel de Cécile Duflo aux femmes de France, lancez-vous, soyez candidate au municipal, c'est dit sur RMC ce matin. Merci Cécile. Dans un instant, le journal de 8h avec ce chiffre RMC qu'on vous dévoile ce matin. 7 parents sur 10 vont rogner sur les dépenses du foyer pour tenter d'offrir des cadeaux à leurs enfants à Noël. Reportage dès le début de ce journal. Et puis la météo, gris et souvent pluvieux. Notez également que Marine Le Pen est mon invitée dès 8h15 sur RMC. 7h56, tiens, les cadeaux, si vous avez du mal à en faire, eh ben on vous l'offre sur RMC. N'oubliez pas, vous pouvez envoyer Noël au 7-32-16, Noël au 7-32-16, et dans 15 minutes, on ouvrira le calendrier de l'Avent ensemble. Il est 7h56.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.